Camarade gamer, c'est Creepers.
Camarade mélomane, c'est Rhône.
Et bienvenue dans la Beatsbox.
Il y a un moment où il faut bien se rendre à l'évidence, mon camarade Creepers et moi-même tournons autour du sujet depuis un bon moment déjà, et c'est donc en toute logique que nous allons parler cette fois des badass. Les héros caricaturaux, gonflés de testostérone, forcément sûrs d'eux et jamais avares d'une punchline bien sentie, eh ben nous, on aime ça. Alors avec ce podcast, préparez-vous à en avoir une troisième qui pousse, ou bien si vous n'en avez pas, n'est-ce pas mesdemoiselles, d'environ 1h15, allez vous regarder dans la glace, vous aurez peut-être une surprise.
Allez, on bombe le torse, on sort les guns et on se prépare à péter des tronches.
Des badass, Nico Bellic est plutôt bien positionné, ça c'est clair. Alors qu'il venait aux USA pour profiter du rêve américain, le pauvre bougre va tomber dans les emmerdes, ça c'est clair,
c'est
pour protéger son cousin,
transformé
par les horreurs de la guerre qu'il a subie lorsqu'il était en Europe de l'Est. Nico n'hésite pas à faire parler la poudre et à péter des gueules pour se faire de l'argent. Bah c'est ça aussi le rêve américain, hein. Si
c'est
tu veux
péter
te faire de l'argent... Généralement, c'est rare que dans les jeux ou dans les films, le rêve américain se passe plutôt bien. Et c'est clair que pour le pauvre Nico, une fois débarqué, bah, on peut dire que c'est un petit peu de la poudre aux yeux, puisque bah, son cousin, bah, il a fait exprès de le faire venir pour le foutre dans la merde, parce qu'il se dit « mon bon Nico, bah, il m'aime bien, il va péter des tronches pour pouvoir me sauver de la mouise ». Alors on va pas en faire des tartines sur GTA 4, parce qu'il paraît que c'est assez connu. Donc on va se replonger dans le contexte de sa sortie, et je sais pas si tu te rappelles Rhône, mais il était quand même hyper attendu ce
c'est
jeu.
C'est clair.
Et je me rappelle du premier trailer, parce que c'était un peu à l'époque où les trailers arrivaient encore à faire vraiment le buzz. Et ce jeu, ce jeu, quand on a vu le premier trailer, bah ça, alors, il y a des gens qui étaient un peu déçus, des gens qui se disent, ouais, tiens, mais il n'y a pas d'avion, des trucs comme ça, mais on s'en foutait, parce que franchement, il y avait une promesse énorme sur l'open world, parce que c'est un peu GTA 3 qui a quand même lancé l'open world et qui a réussi à mettre les standards, et là, GTA 4, il a débarqué avec une tracklist forcément de ouf, parce que les GTA, ils étaient quand même super connus pour ça, et comme dans la Beatbox, eh ben, on aime bien les musiques, ça tombe plutôt bien.
C'est bien foutu.
Et donc, on vient de s'écouter Soviet Song, qui était le thème de GTA 4, composé par Michael Hunter, un compositeur écossais qui a aussi bossé sur GTA San Andreas et GTA 4 et aussi qui a fait un petit album solo qui s'appelle State of Flux. Et j'ai écouté un petit peu, c'est plutôt intéressant, c'est assez varié, donc voilà, le mec est quand même assez doué. Et donc voilà, c'était GTA 4 pour démarrer la Beatbox. Il fallait commencer comme ça, avec un titre coup de poing, et on va enchaîner, ah bah tiens, c'est bizarre, sur une console Sega.
Ok, on parle des badass, alors autant aller chez un des patrons, notre ami Schwarzenegger, avec la musique qu'on vient d'écouter qui vient de The Terminator dans sa version Mega CD. Alors on précise bien dans sa version Mega CD, hein, parce qu'il y avait une version Mega Drive qui était un petit peu naze, pas extraordinaire.
Ouais, c'est vrai.
Et la surprise, la version Mega CD, elle, eh ben, elle était carrément cool. Alors, notamment parce qu'elle était très fidèle au film, hein, elle suit jusqu'à la toute fin du film, avec le Terminator qui finit sous une presse hydraulique, excusez-moi pour le spoiler, même si 50% du jeu se déroule dans le passé, ou enfin plutôt je dirais dans le futur, ouais, plutôt dans le futur, ce qui est plutôt sympa, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de voir quand on regardait le film, et ben c'était dans le jeu. En termes de badass, Kyle Reese, on peut dire qu'il se pose là, il vient pour sauver le monde, il est pas là pour faire dans la dentelle en chemin, donc il sort les guns et il blasse tout ce qu'il faut jusqu'à ce qu'il arrive à son ultime objectif, protéger Sarah Connor. Autant dire que le film avait fait beaucoup d'effets, donc ça fait pas de mal d'avoir une bonne adaptation, et quand c'est le cas, ça fait plaisir, surtout avec une bande-son qui déboîte. Pleine de dynamisme, ça chlingue à plein nez la sueur et les flingues. Et qui est-ce qui est derrière? Un petit chouchou de la Beatbox, ça commence par Tom, ensuite il y a Amy, c'est Tommy Tallarico.
Ouais!
Si vous nous écoutez régulièrement, vous savez qu'on aime bien le gars. Alors, à vrai dire, c'est même pas exprès, hein. On n'a pas une tracklist de Tommy Tallarico, mais il a fait tellement de jeux. Il a fait tellement de bons sons que c'est presque impossible de trouver une émission où on va pas caser au minimum une musique du bonhomme. On le dira jamais assez, c'est quand même un génie du son du jeu vidéo.
Mais moi j'ai une question, est-ce qu'il y avait des FMV?
Eh bien oui, il y avait des FMV et elles étaient bien pourries dans des toutes petites fenêtres.
Donc normal, c'est... mais ça c'est badass. Tu vois, ça faut le préciser tout de suite. Le FMV c'est badass.
Bon, on va rester chez Sega, hein, parce que rappelez-vous, Sega c'est plus fort que toi, hein, surtout quand c'est moi qui en parle. Avec un jeu qui cette fois date d'il y a bien longtemps, en 1988, sur les bornes d'arcade. Alors de temps en temps, ça fait du bien de continuer sur notre thématique de mauvais jeux avec des bons sons. Parce que c'est ce qu'on se disait un petit peu avec l'ami Creepers, nous, Altered Beast, on l'aime pas trop ce genre.
On aime pas du tout.
Bon, faut dire qu'il est surtout connu parce qu'il était offert en pack avec la Mega Drive. Je suis pas sûr qu'il s'en serait vendu beaucoup dans d'autres conditions. Mais pourtant, il y a plein d'ingrédients là-dedans où il y a tout pour nous plaire, normalement.
Bah oui, normalement, il y a ce qu'il faut pour nous, en tout
cas. Bah ouais. On contrôle un athlète grec qui va botter le tu des dieux, ce qui est quand même un bon départ, hein. Kratos l'a rien inventé. Qui prend des power-up où il devient de plus en plus balèze avec des muscles qui sortent de partout alors qu'il garde toujours une tête de la même taille. Ce qui lui donne un aspect un petit peu ridicule, faut bien reconnaître. Mais surtout, il se transforme carrément en homme-loup. Ou en dragon, et ça, c'est la méga classe, et ça, c'est vraiment badass. Il y a quand même un petit bémol hein, dans la badass attitude de nos personnages, hein, c'est qu'ils sont un peu mignons, ils ont des petits juste au corps de gymnaste.
Comme dans Teen Wolf.
C'est ça, pendant tout le jeu, et je dois dire que c'est un peu dur de les prendre au sérieux, c'est peut-être une raison pour laquelle on est très vite pressé d'aller choper les power-up pour faire éclater le petit juste au corps. Et se transformer enfin en quelque chose quoi qui a l'air quand même un peu plus menaçant quoi. Bon, puis de toute façon on va pas aller se foutre de leur gueule hein, toi tu irais te foutre de la gueule d'un mec qui se transforme en loup, ouais, franchement.
Ouais, de loin.
Ouais, de loin, voilà, de loin. Alors pour ce qui est de la musique, hein, elle a été composée par Toru Nakabayashi, un type qui a bossé exclusivement pour Sega, et qui finalement est connu pour les musiques d'Altered Beast, et quand même aussi de Golden Axe, dont on avait déjà passé un morceau et qui est vraiment pas mal.
Et puis niveau badass, c'est pas mal aussi.
On vous avait promis du badass, vous allez en avoir. On va faire un petit tour maintenant du côté des comics. We'll be right back.
Encore une fois, dans le royaume des badass, il y a un personnage de comics qui se pose là. Et je pense que tout le monde sera à peu près d'accord avec moi. Bah, c'est le Punisher.
Carrément.
Le Punisher, il est pas là pour rigoler, dire. C'est, il vient. Si tu le croises, c'est que forcément t'as fait quelque chose de pas génial.
Et puis que tu vas peut-être jamais le recroiser, en tout cas.
Ouais, et normalement tu recroiseras même plus personne. Logiquement, t'auras déjà au moins, il va commencer par les genoux, hein, tranquillement, et ensuite il va t'achever avec une bonne mandale dans la tronche ou peut-être 2-3 bastos. Donc le Punisher, il est pas là pour rigoler. Voilà, Frank Castle. Donc le Punisher, c'est donc la musique de la version arcade que nous avons écoutée, sortie en 1993 et développée par Capcom. Alors je n'y ai pas joué, j'ai pas de souvenir particulier du Punisher. Moi, les jeux Punisher, ceux que j'aime bien, il y en a eu un sur Xbox que j'ai trouvé plutôt sympa, qui était assez violent, assez avec des séances, avec des séances de torture un petit peu compliquées, hein, qui ça lui a posé quelques soucis au niveau des professionnels, etc. Qui disent voilà, c'est quand même pas gênant dans un jeu vidéo de torturer les gens. Oui, mais c'est des méchants. Donc logiquement, mais bon, au moins ça respecte le personnage. Après, il faut savoir où on va, parce que je me rappelle que dans le film avec John Travolta, Thomas Jane, lui, il torturait les gens avec des glaces à la fraise. Donc,
Ce qui est c'est assez violent.
C'est un peu problématique, mais au moins ça passe. Voilà, c'est plutôt sympathique, la glace à la fraise, tout le monde aime ça. Donc, dans le dos, quand tu frottes un petit peu, ça fait un peu froid. Donc, je vous dis tout, monsieur. Arrêtez tout de suite. Et donc, le Punisher, dans sa version arcade, Drone me disait qu'il n'avait pas des grands souvenirs de ce jeu-là.
C'était l'époque où Capcom alignait les jeux, hein, et c'était pas toujours bien glorieux, il faut bien reconnaître. Hein, c'était très interchangeable. Bon, je l'ai croisé dans une salle d'arcade par hasard. Il a vraiment fallu que Creepers nous sorte le morceau. Pour que
t'en rappeler
est mort, mais c'est rien d'incroyable.
En tout cas, je trouve que cette musique de fin, donc le générique, est plutôt sympathique. Il y a une ambiance un petit peu mélancolique, je trouve, qui se dégage de tout ça, donc ça fait un petit peu de bien. Après autant de violence musicale, une petite pause comme ça, un petit peu plus tranquille, même si on est dans un jeu relativement violent quand même. Et on voulait quand même souligner que le Punisher avec Dolph Lundgren, c'était quand même classe.
Exactement.
Hein, donc on se pose là tranquillement, tu sais, on est entre nous, on est entre mecs un peu badass comme ça, et on se dit, mais mince, le Punisher avec Dolph était quand même cool, donc si vous avez l'occasion de redécouvrir ce film, voilà, allez-y, vous verrez, c'est plutôt chouette, et ça me permet de faire une transition vers le prochain jeu, parce qu'on va pas non plus s'éterniser 20 ans sur une musique d'un jeu qu'on n'apprécie pas plus que ça, et cette fois on va basculer vers un univers tout aussi viril, cette fois dans des gangs de motards. J'étais un grand amateur, mais j'étais assez jeune, donc un petit amateur de LucasArts, et j'avais saoulé mes parents pour me payer Full Throttle, l'excellent jeu de Tim Schafer qui tranche radicalement avec ce qu'on avait l'habitude de voir dans les point and click. À l'époque, on avait justement des Day of the Tentacle, les Monkey Island, etc. Et donc, ce jeu-là, moi, me faisait clairement de l'œil déjà parce que j'avais surkiffé Day of the Tentacle et c'était bien écrit sur la boîte que c'était par le créateur de machin. Donc, du coup, j'ai dit, allez, il faut absolument que je l'aie. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Alors donc on contrôle Ben, le chef charismatique du gang des Putois, qui a un nom un peu moins charismatique,
c'est clair,
quand même se l'avouer. Et il est donc accusé de meurtre et il va tout faire pour prouver son innocence. Donc on a des énigmes, on a des poursuites, on a des bastons en moto, ce qui était assez chouette. Et donc Full Throttle, c'est le point and click badass dans le monde des bikers. Et même s'il y a de la vanne, c'est quand même un jeu qui est un petit peu plus sérieux que ce qu'on avait l'habitude de voir dans les jeux de Tim Schafer. Donc il y a vraiment des super bonnes punchlines et je trouve que le jeu, comme d'habitude, était quand même relativement bien écrit. Mais les cassettes étaient moins complexes, il y avait un côté plus narration, dessin animé, et j'adorais les graphismes, ils étaient absolument magnifiques. Donc ça utilisait le moteur Scum, hein. C'était le 10e jeu, je crois, à utiliser ce moteur-là. Donc c'est un jeu qui me laisse de très très bons souvenirs, je le relance régulièrement juste pour me faire le début, parce que j'adorais la cinématique de début avec la musique, justement la musique de The Cone Jackals, qui est un groupe de rock américain, un gros groupe de tatoués qui jouent généralement dans des bars, etc. Ils n'ont pas fait énormément de choses, les Gone Chacals, à part la musique de Full Throttle, mais elle a été élue musique de l'année par le magazine PC Game Magazine. Donc voilà, hein, quand même, ils ont été un petit peu respectés par les gamers avec cette bande originale-là. Et il vient de ressortir en remaster, donc si vous n'avez jamais fait ce titre-là, alors attention, ça peut un petit peu avoir vieilli, mais si vous aimez les jeux d'aventure LucasArts de l'époque, où vous voulez tenter un petit peu ce jeu-là, c'est plutôt bien fichu, ça a été bien refait. Techniquement, déjà, il y a vraiment la patte visuelle de l'époque, elle est bien gardée, et je trouve que ça passe toujours très très bien. Donc je vous le conseille, ça coûte pas hyper cher, ou si vous voulez attendre une petite promo, voilà, moi je trouve que ça vaut le coup, j'adore ce jeu. Allez, on bascule vers un univers un petit peu plus horrifique, et pour un jeu que j'ai adoré.
On vient de s'écouter un morceau qui vient de The Darkness, jeu sorti en 2007 sur Xbox 360 et PS3, et on se le disait avec Reaper, c'est un jeu qu'on aime bien.
Grosse surprise à l'époque, vraiment vraiment une grosse surprise.
Alors c'est une adaptation d'un comics qui est bien violent, et moi j'ai même tellement bien aimé le jeu que j'avais lu les comics, je les avais achetés en import, bon les comics qui s'essoufflaient assez vite, mais qui étaient exactement finalement dans la tonalité du jeu, comme quoi c'est une bonne adaptation. Donc on y joue Jackie Estacado, qui est un tueur à gages qui n'aime pas trop la façon dont les familles mafieuses gèrent leurs affaires et qui donc se retourne contre elles. Bref, on joue un salopard qui se découvre des valeurs. Autant dire qu'on joue donc un mec qui est franchement badass et sans pitié. Par-dessus le marché, hein, parce qu'il pourrait juste avoir des flingues et être un tueur à gages, il gagne les pouvoirs du Darkness. en gros, une espèce de grand tentacule dégueu qu'il dirige un peu comme il veut, et ça va lui permettre de l'utiliser pour attraper des objets, taper sur les gens, et puis surtout un petit peu changer l'ambiance du jeu dès qu'il utilise le pouvoir du Darkness. En gros, ça va bien chier. Quoi, dans...
Il y avait des pouvoirs qui étaient terribles, tu pouvais embrocher tes ennemis. Donc genre, il y a un mec qui te saoule un petit peu devant, là tu actionnes le pouvoir du Darkness et là, paf, t'empales l'ennemi et tu peux le balancer à l'autre côté de la pièce. Moi, c'est vraiment le type de pouvoir que j'adore parce que c'est visuellement déjà, c'est ultra classe. En plus, c'est d'une efficacité redoutable et ce qui était intéressant avec les pouvoirs du Darkness, c'est qu'il fallait gérer justement avec l'ombre et la lumière. Et si on était complètement la lumière, le pouvoir, on pouvait pas les utiliser. Et là, il fallait tirer uniquement avec ses guns. Donc on pouvait détruire les sources de lumière un petit peu éparpillées dans les niveaux. Et ça marchait super bien. Et alors, petite anecdote, je sais pas si tu comptais en parler, mais la voix du Darkness, c'est le chanteur des Face No More, Mike Patton, qui faisait la voix du Darkness. Et il faisait comme ça, il faisait « Jackie ! Jackie !» C'était plutôt chouette.
Et ça, c'est quand même la classe, quoi. Il faut bien le dire. Alors, du coup, ouais, un des succès du jeu, c'était d'être capable de justement un petit peu de varier les ambiances. Il y avait un excellent rythme. Ouais. Ce qui ne s'est malheureusement pas retrouvé dans sa suite, qui est très inférieure et que, à vrai dire, même j'aime pas.
Ouais, elle est pas bonne. C'est vraiment c'est de la série BZ bas du front. Donc, ouais. On peut trouver un certain plaisir, mais c'est assez limité quand même.
Non, je trouve que ça pisse pas loin. Alors, la musique du jeu, elle a été composée par un certain Gustav Greveberg, un Suédois qui est un ancien bidouilleur d'Amiga et qui a composé aussi quelques jolies partitions pour Starbreeze, hein, qui est derrière le jeu. En particulier, sa dernière que j'ai plutôt bien aimée pour Brothers Tale of Two Sons, que je trouve plutôt réussi. Et sur The Darkness, il a fait un bon boulot parce que finalement, les thèmes qu'il a écrits sont développés pour s'adapter aux différentes ambiances qu'on a quand on utilise le pouvoir du Darkness ou pas, au temps calme ou au temps d'action, avec des variations sur les thèmes qui sont vraiment très intéressantes. Moi, c'était un peu une surprise d'écouter cette OST en entier. Elle passe très très bien, ça fonctionne vachement bien. Alors, je sais pas si The Darkness est rétro-compatible, peut-être pas encore sur Xbox One, mais on peut croiser les doigts pour qu'il le soit, parce que c'est un jeu qui est toujours très plaisant à parcourir. On reste du côté des criminels badass avec un jeu qu'on a sans doute oublié qui est sorti en 96 sur Saturn et aussi sur PS1. On vient de s'entendre un petit morceau qui vient de Loaded, donc comme je le disais, qui est sorti en 96 sur cette bonne vieille PS1 et sur Saturn, qui raconte comment les pires psychopathes de l'univers, en échange d'une ardoise effacée pour leur peine de prison, vont devenir les sauveurs de la galaxie. En gros, c'est Suicide Squad, mais cette fois c'est des vrais méchants, de vrais badass, pas les espèces de tapettes dans le film qui est sorti il y a pas longtemps.
Oh, s'il n'y a pas Will Smith, déjà on s'en sort bien.
Ouais, c'est déjà ça de prix. Hein. Alors dans les faits, le jeu c'est un shooter 3D vu du dessus, hein, et comme tous les jeux de cette époque avec leur 3D moche, il a pas du tout bien vieilli.
Il était super moche quand même déjà à l'époque.
C'est ça, déjà à l'époque c'était pas terrible, il y avait que la gestion des lumières qui était pas trop mal, mais sinon, c'était pas bien comme jeu, allez, faut le dire. C'était pas bien, c'est devenu encore pire. Et pour la petite histoire, moi c'est un jeu que je voyais très souvent en magasin quand j'y allais, qui était d'occasion, qui était de moins en moins cher. Et je savais que c'était probablement pas terrible, seulement voilà, la jaquette est absolument superbe.
Et ça c'est vrai.
Et j'ai résisté longtemps, et j'ai fini par l'acheter. Donc il y avait tous ces personnages formidables, avec notamment ce clown moitié psycho avec des énormes flingues.
Donc, comment tu dis déjà, Super Saucisse?
Ouais, voilà, c'est ça. Là, j'avais vraiment fait c'est ma Super Saucisse, c'est clair. Surtout que j'ai lancé le jeu, j'y ai joué trois fois et je l'ai rangé, je pense, hein, parce que c'était pas terrible. Mais donc, tout s'explique quand on sait que les personnages ont été dessinés en collaboration avec Garth Ennis, qui est un pro du comics, hein, qui a bossé notamment sur Preacher ou Le Punisher, tiens. Qui a donc l'habitude de travailler sur des œuvres, on va dire, avec des héros un petit peu musclés. Et dans ce jeu, il n'y a bien qu'une seule chose qui est vraiment réussie, c'est l'ambiance, qui, elle, fonctionne très très bien. Et il y a autre chose, c'est la musique du jeu, qui est l'œuvre de Neil Biggin, un compositeur anglais qui a œuvré sur pas mal de titres, mais souvent dans l'ombre, juste en faisant des raccords, des remixes, des choses comme ça. Et la BO de Lodid, c'est clairement sa pièce maîtresse, et c'est ce qui donnait tout l'intérêt au jeu, puisque le CD était conçu pour pouvoir être écouté sur une platine CD, puisque la première piste c'était le jeu, mais il suffisait de passer la première piste et on avait une vraie OST complète qu'on pouvait écouter, et ça valait le coup parce que elle, par contre, elle marche très très bien, même si c'est un petit peu daté aujourd'hui. Et ça sent bon l'action, ça sent bon la sueur, encore une fois c'est poisseux, c'est très efficace. Donc le jeu est pas bien, mais la musique, elle est cool. Allez, on va aller faire maintenant un petit tour du côté du nanar italien des années 80.
Ah bah tiens, un beat'em all dans un univers post-apocalyptique. Alors forcément, ça m'attire, et pourtant, Two Crudes Dude, je n'y ai joué que très récemment, et justement, on parlait d'achat un petit peu à la jaquette, et ben en me baladant en vacances, en Corse, je vais tout vous raconter, je vais dans un game cache, comme ça, et là je vois un jeu Mega Drive, alors en super bon état, et là je vois deux punks, hyper bronzés, avec des lunettes de soleil, tout ce qu'il fallait de cuir, de clous, histoire de vraiment faire un petit peu musclé, badass, cuir moustache. Et je prends la jaquette et je me dis, ça peut être sympa tout ça, puisqu'en plus c'était un jeu dataïste.
Eh oui.
Et dataïste, ouais, ils ont fait des bons trucs, hein, ils ont fait les Joe & Mac, etc. Ouais, c'est plutôt des développeurs que j'aime bien. Donc je me dis, allez, c'est parti, je prends et je vais jouer chez moi tranquillou. Et là, attention patatras, on est vraiment dans le... On pourrait appeler ça un petit peu un nanar jeu vidéo, mais on sent que c'est quand même un petit peu fait exprès. puisqu'on est vraiment dans un pastiche de tout ce qui est normalement dans les beats et malls. Donc en vraiment en abusé, les mecs ils peuvent soulever des tanks, les balancer à travers des voitures, ils peuvent choper tous les poteaux, etc. Ce qui fait que c'est relativement marrant à prendre en main, donc on pouvait jouer à deux forcément. Et il y avait vraiment le côté cliché du punk, de tout ce qui est voilà post-apo, il y avait des onomatopées un petit peu de bande dessinée aussi pour vraiment appuyer le côté un peu cartoon bande dessinée, et c'est un jeu que je trouve plutôt agréable. Alors qui tombe justement un peu dans les travers de ce qu'il veut un peu parodier, parce que le jeu est assez répétitif et se renouvelle pas énormément sur la longueur, mais l'ambiance plutôt relax, cool et post-apo, puisque le post-apo ça reste quelque chose de chouette. Je vous invite à regarder Les Guerriers du Bronx 1 et 2 le samedi soir avec quelques bières, hein, parce que franchement ça vaut le coup. Et donc si vous aimez un peu ces univers là et que vous êtes un petit peu dans le rétro gaming, bah c'est un jeu qui est encore agréable, puisque les jeux 2D ça passe encore bien, et la musique est plutôt chouette, puisque c'est composé par Azusa Hara, Hiraoki Yoshida et Tatsuya Kinushi, et c'est trois habitués des productions Data East. Et ce que j'adore dans le morceau The Lifeline of New York, bah c'est la petite ligne de basse que je trouve vraiment super sympa, qui commence à partir de la 20e seconde de la musique, et je trouve que ça swing, et moi quand ça swing, et bah, j'aime bien. Attention, c'est l'instant ciné. Et je sais que vous vous moquez là derrière votre écran, vous dites, oh, le mec, alors il nous passe que des musiques de films de merde.
Moi mais je suis pas sûr, je suis sûr qu'il y en a, ils font semblant de se moquer, mais en fait ils ont bougé la tête et ils ont trouvé ça cool.
Et il y en a plein qui aiment bien ce film. Je sais que vous aimez le film Mortal Kombat, comme ça en cachette chez vous, vous n'osez pas le dire à vos amis, puisque c'est pas bien de dire qu'on aime bien Mortal Kombat. Et bah pourtant, le film Mortal Kombat, et bah il est plutôt chouette.
Puis c'est une vraie adaptation pour le coup, on se fout pas de notre gueule. On adapte Mortal Kombat, c'est des mecs qui se bastonnent.
Voilà, puis les mecs, ils respectent les mecs. C'est-à-dire que Street Fighter, ils en avaient rien à foutre. Hein. T'avais Honda qui était caméraman, etc. Ouais. Que là, on a vraiment le combat entre voilà, le bien contre le mal. Et voilà, t'as Liu Kang qui domine un petit peu tout ça, avec Johnny Cage, Sonya Blade et patati patata. Ils vont affronter Goro et Chun Sung. Et ça se bastonne. Ça se bastonne plutôt bien. Moi, j'adore le combat entre Johnny Cage et Scorpion. trouve qu'il est plutôt cool. En plus, il y a vraiment du, il y a du finishing, il y a des fatalités, puisque à la fin, Scorpion bah, il sa tête et il crache des flammes et on lui coupe la tête en deux. Et on est, il y a pas de sang. Et là, les malins, bah, c'est que du coup, bah, c'est des espèces de lave qui dégoulinent de sa tête. Il y avait le combat Liu Kang contre Reptile. Voilà, il y avait Kenno qui était un gros beauf qui voulait tabasser Sonya. Donc, je trouve que ça fonctionne. Alors, c'est pas un grand film. Et puis, il y a Toto Flambert qui joue Raiden. Alors, on sait pas ce qu'il fout là. Alors, à l'époque, il avait une certaine aura, je pense, quand même. Et il y a Toto bah, qui s'éclate. Il est là avec son petit chapeau, avec ses cheveux blancs, avec ses petites éclairs dans les yeux. Et il rigole comme un teubé. Il balance des punchlines, il appuie son chèque. Voilà, Toto, il est bien, il est plutôt cool. Et il y a cette musique. Ah, alors, la musique de The Immortal. Alors, ça s'appelle Techno Syndrome. et bah c'est un groupe belge. J'ai découvert ça en fouillant un petit peu. Et quand j'étais petit, parce que oui, moi en 95 j'étais petit, et bah je me passais uniquement le début en boucle, parce que quand le mec il gueule Mortal Kombat et que t'as la musique qui commence à partir en live dans tous les sens, et bah moi je trouvais ça chouette. Je remuais la tête dans tous les sens, je faisais des katas, alors à des katas à mon niveau, hein. Des catastrophes on va dire. Et je trouve parce que ça fonctionne. Moi, je trouve que la musique de Mortal Kombat elle est rigolote et on peut même dire, je pense, Ron, que c'est devenu culte.
Ouais, quand même.
Franchement. Hein, parce que maintenant, en plus, ce qui est marrant, c'est que dès qu'on parle de musique de Mortal Kombat, même dans certains, quand ils parlent de la musique du jeu, bah, ils mettent cette musique-là, alors qu'il n'y a jamais cette musique-là dans les jeux. Ce qui est un peu bizarre. Et cette musique a marqué une époque. Elle m'a marqué, moi, quand j'étais petit. Et bah, je l'écouterai jusqu'à la fin de mes jours et puis c'est tout. Vive Techno Syndrome. Allez, changement de décor. On va dans le futur et on va jouer à un sport hyper dangereux.
Alors que le film Rollerball, sorti en 1975, continuait d'être le sommet de la représentation du sport violent, et en plus j'adorais ce film.
James Caan.
Exactement, Jonathan à la fin, oh c'était beau, putain, regardez-le ce film. Speedball débarque sur Amiga et Atari ST, c'est The Beatmap Brothers, c'était toujours bien ce qu'ils faisaient. Et on se retrouve avec une espèce de jeu de handball où il est aussi important de marquer que de défoncer ses adversaires. Excusez-moi du peu, mais là, c'est du badass. Donc le jeu est brutal, c'est fait uniquement pour les durs à cuire, alors sa suite sera encore meilleure, avec en plus un semblant de gestion d'équipe, et puis un petit peu plus joli, et des arènes un peu plus variées. Mais c'est le son du premier que je préfère, d'où cet extrait. Moi j'y ai énormément joué à ce jeu, on pouvait jouer à deux sans mettre plein la gueule, dans toute bonne humeur, hein, en toute sympathie, je peux dire, est-ce que ça vous dérange si je vous éclate la gueule en toute amitié? Et l'air de rien, c'était un petit peu technique comme jeu, ce qui fait que c'était un vrai jeu de sport et en même temps violent. Donc que demande le peuple, franchement, Speedball, c'était de la balle. De la handball même.
Oh, monsieur est drôle.
Alors cette petite musique, qui était probablement d'ailleurs la seule du jeu, hein, est l'œuvre de David Whittaker, qui avant de s'asseoir dans un bureau chez Traveler's Tales, où maintenant je sais pas trop ce qu'il fait, il était connu pour ses compos sur Commodore 64 et Amiga et autres machines 8 et 16 bits, mais surtout Commodore 64 et Amiga. Et ce morceau pour moi c'est de l'énergie en barre, c'était la piste qui démarrait quand on insérait la disquette. On avait déjà la bave aux lèvres, on était déjà prêt à foncer dans les adversaires. Bref, exactement ce qu'il faut avant d'appuyer sur Start. Allez, on va revenir à une date un petit peu plus proche de chez nous pour un jeu qui vient juste d'être remasterisé. De s'entendre un petit morceau qui vient de Bulletstorm. Le morceau s'appelle Hecatonus. C'est sorti en 2011. Comme je disais, ça vient de revenir dans un remaster auquel j'ai pas touché. Moi, les remasters, ça me fatigue un petit peu. Ce titre, dès le départ, son intention était claire. C'était d'incarner la badass attitude. Alors, cette fois sous forme de FPS, mais Bulletstorm cherchait clairement à reprendre le même ton que Gears. C'est-à-dire de la testostérone, des mecs bâtis comme des armoires,
des punchlines,
tout ça jusqu'à la parodie, en y mettant un gameplay plutôt fun et efficace qui poussait à tuer les ennemis des façons les plus variées possibles avec une espèce de fouet. Moi je sais que j'avais bien accroché au jeu, j'en attendais rien, il m'avait bien plu, Clippers me disait que lui était un petit peu mitigé
Je trouve que le début, ouais, tu t'amuses très très rapidement à faire le maximum de carnage, mais que ça a du mal à se renouveler.
C'est recevable. Bon, t'es pas le seul à avoir pensé ça, hein, puisque le jeu avait quand même été un bel échec commercial, donc d'ailleurs pourquoi un remaster?
Bah c'est ce que j'allais dire, pourquoi un remasterisé? Bah peut-être pour une deuxième chance, peut-être.
Alors du côté de la bande originale, là aussi la musique va clairement taquiner du côté de Gears. On entend un petit peu des sonorités qui sont assez proches, mais il se trouve que le résultat est bon, donc on va pas s'en plaindre. Et malheureusement pour moi, hasard de la programmation, les auteurs de la musique, on en a déjà parlé le mois dernier sur le podcast sur les ninjas, hein, sur le jeu Shadow
Warriors 2.
Ce sont donc Mikal Chielecki et Christophe Warsinkiewicz.
Pas mal, en plus avec l'accent.
L'accent, c'est une façon de dissimuler le fait que j'ai peut-être oublié des lettres en chemin.
On avait bien compris, mais...
mais ils ont fait un truc qui est rudement efficace, qui est classique, mais qui en attendant en impose quand même. Ça sent bon l'héroïsme virilique, donc ça marche très très bien, et c'est même l'ensemble de l'OST qui est très efficace. Finalement, ils sont pas mauvais, ces deux petits gars au nom imprononçable, ce qui est regrettable pour nous. J'espère qu'on n'aura pas à reclasser des morceaux qui sont d'eux, ne serait-ce pour qu'on n'ait pas à redonner leur nom.
Oui, ça suffit.
Allez, on va passer à un autre jeu que, étrangement, j'avais pas trop aimé, alors que j'ai adoré son ambiance poisseuse.
Eh bien oui, c'est à mon tour de défendre un jeu qui a été critiqué, qui a été mis à terre, exécuté par la critique et par les joueurs. Ah oui, c'est vrai que c'est pas un versus. J'avais oublié. Non, pour moi, c'était un coup de cœur de 2007. Caden Lynch, Dead Man. Alors, m'avait marqué par sa radicalité. On va la garder. M'avait marqué par sa radicalité. Je m'en fous, j'assume parfaitement. Son côté buddy movie taré un petit peu et son ambiance vraiment pesante. Parce que vous avez, il y avait un des deux personnages qui était complètement schizo, hein, ouais. Parce que d'un seul coup, pouvait basculer dans la folie et exécuter n'importe qui. Et donc c'était IO Interactive qui était à l'origine des Hitman à l'époque. Et je trouve qu'avec ces dialogues bien écrits, la mise en scène qui était clairement inspirée de Hit et de Miami Vice, donc autant dire par Michael Mann, en gros.
Ouais.
Donc il y a une séquence de braquage qui est clairement reprise de Hit, il y a une séquence dans une boîte de nuit qui est clairement reprise de Miami Vice. Donc avec un gameplay, alors. Clairement,
voilà.
on est sur du third person shooter qui est assez basique, pas non plus sur le cachet. Pour certains, il y avait de l'imprécision au niveau de la visée. Moi, je trouvais pas. J'ai jamais eu vraiment ce problème.
C'est parce que tu vises mal, et donc là, pour une fois, tu touches à tes cibles.
Eh mais non. Et je trouvais que justement le jeu demandait vraiment du doigté, de vraiment bien viser. Enfin, voilà, pour une fois je trouvais que c'était. À l'époque j'avais des réflexes, monsieur. En 2007 j'avais des réflexes encore. Et j'avais fait en coopération. C'était la grande mode à l'époque de faire des jeux en coopération. Il y avait Army of Two, etc. Et ben moi j'avais passé vraiment un très bon moment. Moins sur la suite, qui pourtant est beaucoup plus dans le bis, parce qu'elle est beaucoup plus crasseuse avec l'image rayée, etc. Une caméra qui était encore plus caméra à l'épaule. Donc j'ai un petit peu moins apprécié la suite, mais voilà, Caden Lynch, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, et ben on a une musique de Jesper Kidd, qui est quand même une pointure au niveau des musiques de jeux vidéo, qui a bossé entre autres sur les Assassin's Creed. Et ce qui est très bien avec cette bande originale, comme sur les Assassins, c'est qu'il arrive vraiment bien à poser une ambiance. Et tu disais à juste titre que ça ressemblait énormément à du Splinter Cell. Je crois qu'il a bossé sur du Splinter Cell. D'ailleurs, Jesper Kidd, et c'est vrai qu'il arrive vraiment à poser l'ambiance et à mettre des crescendo dans les musiques. Ce qui fait que dans les séquences d'action, il y a vraiment une pression qui s'installe au fur et à mesure. Et ça joue énormément sur l'ambiance. Et comme justement, pour moi, l'ambiance est un des gros points forts de Caden Lynch, ça prouve à quel point cette bande-son est vraiment réussie.
puis ça me fait plaisir que tu trouves que c'est bien d'avoir bossé sur Splinter Cell.
Ah mais les musiques sont bien, hein. Après c'est dommage d'avoir un héros qui manque de charisme quand même.
Salut, j'ai la voix de Schwarzy pour faire bien.
Allez, il était temps, enfin une héroïne badass féminine, et on passe sur Xbox.
On a marre des gros paquets de muscles, il nous fallait une jolie petite minette, mais qu'il faut pas trop faire chier quand même. C'est Buffy the Vampire Slayer qui est sorti en 2002 sur Xbox, et c'est le thème du menu qu'on vient d'entendre. Alors, c'est un jeu que moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Le Buffy à la télé, c'était une espèce de série ovni qui mélangeait des tas de choses, et sorti sur Xbox, et ben là aussi c'est un ovni, puisque adaptation donc c'est pas bien, et la surprise totale, et ben si, c'est excellent. On a là un vrai beat'em all de qualité, il y a tout, il y a des enchaînements, il y a du rythme, il y a des situations variées, la réalisation est bonne, et on garde en même temps l'originalité et l'énergie de la série télé. Moi j'ai toujours mon exemplaire du jeu Xbox, je me le relance une fois de temps en temps. Je trouve que c'est vraiment très très réussi, et la musique est à l'avenant. Alors là j'ai sélectionné le menu du jeu qui fait très film d'horreur, hein, ce qui colle également, mais le plus souvent ce sont des guitares qui prennent le dessus pour quelque chose de plus détonnant qui fonctionne très bien, comme le morceau qu'on entend pendant que je suis en train de parler. L'ensemble fonctionne super bien, c'est dynamique. Buffy the Vampire Slayer, même le prononcer bien.
Ah, c'est l'accent, ouais.
Ça reste toujours aussi bien. Si vous connaissez pas ce jeu, je ne peux que le suggérer fortement. C'est toujours aussi fun à jouer. Allez, maintenant on passe à ma sélection cinéma.
Waouh, waouh, waouh.
Thank you.
Je sais, dans l'épisode de la Beatsbox sur les jeux de course, j'avais déjà passé un morceau qui venait du jeu Blur, qui était un remix de ce Ecstasy of Gold, mais bon, l'original quand même. Ça fait du bien de se le passer de temps en temps, vous n'allez pas dire le contraire. Et pour moi, c'est juste le meilleur thème du bon, la brute et le truand. Et puis voilà, c'est Ennio Morricone au sommet de son art. Et surtout, ça correspond à l'incarnation même du badass. Clint Eastwood, c'est l'homme sans nom, c'est blondin, c'est comme vous voulez, on s'en fout. C'est surtout que c'est le mec. The guy.
Ouais. J'aurais pu dire l'inspecteur Harry, le niveau badass,
ouais,
ça s'impose quand même aussi.
Ouais, c'était pas dans le même film, donc je suis pas allé jusque là, mais bon, rien que le nom de l'acteur, on sait que c'est badass. Voilà, l'important c'est qu'il n'abandonne jamais, hein, c'était mon petit clin d'œil à l'inspecteur Harry, justement.
Ah bah autant pour moi. Ouais, ouais, mais autant que je fracasse ton texte. Hein.
Bah vas-y, hein, je m'emmerde à écrire des trucs, on a qu'à dire qu'on s'en fout. Il recule devant rien, il se fout tout ou presque grâce quand même à quelques valeurs qui font que c'est pas un méchant, mais juste de justesse. D'ailleurs, ce thème n'est pas spécialement dédié à un personnage, hein, et quand on fait la combinaison des trois qui sont dans le film, entre Blondin, Tuco et Sentenza, on a juste un ensemble de mecs qu'il faut vraiment pas emmerder. C'est vraiment le... Je pense qu'ils peuvent mettre une branlée à Chuck Norris à eux trois.
Oulala, oulala, mais il est fou ce mec.
Ouais, ouais.
Tu crois vraiment?
Ouais, ouais, moi j'ose tout, moi j'ai pas peur.
Ok, bah tu iras dire ça à Braddock. Attention où tu mets les pieds.
Les pieds, je les mets où je veux.
Eh ouais, c'est souvent dans la gueule.
Allez, on quitte le ciné, on revient dans le monde des jeux vidéo pour un titre où, tiens, on parlait de jaquette tout à l'heure. Eh bah moi, la jaquette, elle m'a vraiment pas plu dans ce jeu-là.
J'adore cette musique, mais je vais pas avoir grand chose à dire, parce que bah, le jeu, je n'ai parcouru que la démo, et la démo m'avait pas marqué plus que ça, et je vais revenir un petit peu plus loin dans mon texte, justement. Mais la musique de Shikayo Fukuda, eh ben, elle passe plutôt bien, et il y a un côté un peu mélancolique, triste, parce qu'on est sur un héros torturé, puisque on vient d'écouter la musique de Azrath, Wrath. C'était In Your Belief qui transmet parfaitement, je trouve, la tristesse et la colère du personnage principal qui va tout faire pour se venger de demi-dieux. Encore une fois, parce qu'on aime bien tuer les demi-dieux.
Ouais, c'est ça.
Y a rien de plus badass dans le jeu vidéo que de vouloir défoncer des dieux.
Ah bah, un dieu, c'est un boss de fin de niveau, hein, c'est sûr.
Ah bah là, c'est, là, t'es au top. Hein. Et là, il va en taper une paire de dieux, il va même défoncer des planètes. Enfin voilà, c'est un jeu qui est dans la démesure. Voilà, c'est un jeu qui se veut épique, qui joue sur les, l'échelle vraiment au niveau des bastons, parce que là, il va se battre contre des points géants, il va se battre contre des héros beaucoup plus gros que lui. Et c'est un titre qui, en fait, qui est vraiment bizarre parce que il m'attire énormément pour son côté fou, c'est-à-dire vraiment il y a un côté shonen, Dragon Ball Z, etc. pour les habitués de Naruto et tout, on sait des mangas qui vont très très loin dans l'action démesurée. Et là autant dire que ce jeu-là, donc on joue un héros, je crois qu'il y a un moment, je sais plus s'il a 4 bras ou 6 bras tout de suite, mais il y a des moments où il a 6 bras, où ça bastonne dans tous les sens, c'est bourré de QTE justement pour appuyer le côté mise en scène et on va dire hyper spectaculaire.
Et puis il a de la chance parce que quand t'as 6 bras, t'as beaucoup de chocolat.
Ah bah ouais, bah écoute, c'est un gourmand, peut-être qu'il se bat pour des tablettes, on ne le saura jamais puisqu'on n'a pas fait le jeu. Donc ça se trouve à la fin, bah il arrive chez Lint et il demande une paire de plaquettes de chocolat, il dit voilà, j'ai 6 bras donc je veux plein de chocolat. Je vais arrêter de m'enfoncer dans cette connerie. Et donc c'est un jeu développé par Cyber Connect 2. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a jamais confié de jeu Dragon Ball Z à ces mecs-là, parce que leurs jeux Naruto sont très bien fichus. Le jeu Azura's Wrath est ultra spectaculaire et pourrait justement coller au côté ouf de certains épisodes de Dragon Ball Z. Donc voilà, ouais, je piche pas. Donc confier Dragon Ball Z à Cyber Connect 2. En ce qui concerne Azura's Wrath, c'est assez compliqué. Hein. Donc c'est voilà un jeu que j'ai mis de côté parce que justement trop de QTE. J'ai trouvé que le système de combat quand on était dans le côté un peu plus action à la Dynasty Warrior, bah c'était un petit peu brouillon. Donc voilà, j'ai pas voulu me mettre plus dedans que ça. Je l'ai acheté 5 balles. Si jamais un jour j'ai envie de me le faire. Mais c'est vrai que limite c'est un jeu je trouve qui est à voir sur YouTube pour profiter des musiques, de la mise en scène, etc. Donc je sais qu'il y a énormément de fans de ce jeu, peut-être qu'ils vont me défoncer dans les commentaires, mais je vous respecte et je vous aime, puis je ne suis qu'amour, et je pense qu'il est temps de passer à mon prochain jeu, et cette fois je l'aime d'amour.
Now, never fall down.
Ah, elle est cool, cette musique. Elle est vraiment cool, cette musique composée par le groupe Hills, puisque c'était le score de Max Payne 3, un jeu clairement badass.
C'est clair. Voilà.
S'il y a un héros badass, je crois que même au-dessus de Niko Bellic, etc., je pense que Max Payne peut taper Chuck Norris. Alors peut-être pas lui faire mal, mais il peut le taper.
Il peut l'atteindre.
Qu'il peut l'atteindre avec ses bullet time, etc. Alors j'adore Max Payne 1, c'était une grosse claque à l'époque. J'aime beaucoup Max Payne 2 pour son ambiance vraiment polar noir, encore plus poussée, avec un peu plus de mise en scène. Mais Max Payne 3, c'était à l'époque où je surkiffais Man on Fire de Tony Scott. Et on va dire qu'ils sont clairement inspirés de la mise en scène avec les textes qui apparaissent sur l'écran, avec le côté image un petit peu trituré comme ça. Alors certains ont pas du tout aimé, trouvent que ça faisait mal à la tête. Moi je trouve que ça donne une gueule pas possible au jeu. Et en plus de ça, alors pareil, il faut aimer, il y a beaucoup plus de cinématiques, beaucoup plus écrit, parce que c'est voilà les frères Hauser qui se sont occupés de la production du jeu, c'était plus Remedy. Et je trouve que il y a un équilibre presque parfait entre le côté vraiment polar, ultra hard-boiled. Alors on change vraiment du polar noir, on est vraiment dans le polar violent, radical. Il y a des scènes qui sont assez ouf, je trouve, dans ce jeu, et même un petit peu osées. Et là, on retrouve justement la patte des frères Hauser. Il y avait une scène qui m'avait énormément marqué, où on débarquait dans une espèce de baraque de drogue, où on voit des gens en train de baiser dans tous les sens, n'importe comment, des gens se faire friter, et toi t'arrives là avec le crâne rasé pour essayer d'aller trouver un mec. Et il y avait un côté aussi avec les personnages, tu sais, de jeunes avec plein de pognon, qui pouvaient faire un petit peu tout ce qu'ils voulaient, et il y avait un gros décalage avec la vérité du Mexique, où les gens se faisaient enlever, les gens étaient pauvres et subissaient un petit peu la pègre locale, et c'est des choses qu'on voyait même pas forcément
dans
le jeu vidéo.
Et même dès le tout début du jeu, moi, qui m'avait scotché, parce que finalement, avec dans les 5 premières minutes, on arrive déjà à capter l'atmosphère du jeu, on se rend compte qu'on est dans quelque chose de très différent,
et
que, entre guillemets, ça va pas déconner, quoi.
Ah non, ça déconne pas du tout, et vraiment, le personnage de Max, il est, alors je crois qu'au début, il ne boit plus, là, d'un seul coup, il finit par repicoler, ou alors, non, c'est l'inverse, il est complètement alcoolo, il finit par essayer de s'expier de ses péchés, là, il change complètement de physique, et plus on évolue dans le jeu, plus on prend plein la gueule, et il subit vraiment tout ce qui se passe, c'est une espèce de rédemption, qui tente de se faire au fur et à mesure du jeu, mais vraiment, la rédemption hardcore, quoi, le mec, il s'en prend plein la tronche tout le long, c'est très très violent, encore une fois, mais, voilà, c'est un jeu qui, moi, en plus de ça, un gameplay qui est au top.
Exactement.
Et c'était, on avait l'habitude à l'époque d'avoir les jeux où on se mettait en cover shooting, où on pouvait récupérer de l'énergie, etc. Bah là, le jeu reprenait un système d'énergie. Il fallait reprendre des pilules pour pouvoir récupérer encore une fois de l'énergie. C'était un jeu qui était assez exigeant en termes de visée, mais je me suis régalé. Assez long, en plus, je trouvais, pour un jeu de ce genre-là. Il était assez long et vraiment la mise en scène était top, les décors étaient variés. Enfin, voilà, pour moi, c'est une grosse réussite, ce Max Payne 3, et la musique était vraiment top, et aussi très très différente de ce qu'on avait dans les premiers Max Payne. Il y a un côté mélange un petit peu électro, il y a un petit peu même de Nine Inch Nine dans la bande originale, donc voilà, pour moi c'est une grosse réussite, et j'espère me le refaire bientôt sur PC, parce que je l'avais fait sur 360, et j'ai envie, dès que j'aurai, je pense, une petite occasion, de l'avoir en réduction à 5 balles sur PC pour pouvoir le mettre à fond au niveau graphisme. Je pense que je me le referai avec un grand plaisir. Allez, on quitte les polars hard-boiled pour l'action bourrine et la gaudriole.
Et oui, quand je parle de Serious Sam, je pense tout de suite à ces bombeurs qui foncent vers nous en hurlant, qui est le parfait résumé du jeu. C'est débile. C'est une ode au bourrinage. Et donc c'est cool. Donc on a un héros qui est complètement stupide, qui aime tout détruire, qui aime les gros flingues. Et ça tombe bien, c'est exactement le concept du jeu. On est dans du badass crétin comme on n'en fait plus, qui s'assume à 100%. Il y a une certaine bonne humeur dans la destruction. Moi, Serious Sam, c'est une série que j'aime bien. Donc le morceau qu'on entend vient de Serious Sam 2, et c'est un morceau que j'aime beaucoup, qui pour le coup, je trouve, fait vraiment très très hard-boiled. Il a été composé par un certain Damjan Mravunak. Putain, décidément, moi je vais chercher des noms à l'est. Ces temps-ci, là, alors, qui a bossé sur pas mal de jeux, mais c'est clairement à Serious Sam qu'il est rattaché. Et pour une bonne raison, la musique elle est excellente, donc c'est pour ça qu'on se souvient de lui. Elle est blindée d'action, elle accompagne le joueur dans le joyeux carnage qui est à l'écran, la violence pleine de bonne humeur, et oui, c'est aussi ça, les jeux vidéo, et c'est très très cool.
Et tu sais que j'ai joué à la version VR de Serious Sam, et quand tu joues en VR, donc j'ai joué avec le HTC, donc du coup t'es vraiment repéré dans l'espace et tu peux bouger, et quand t'as les mecs qui débarquent avec leur, tu sais, les mecs sans tête avec leur bombe, ouais. Et qui, maintenant, ils hurlent, donc ils ont une tête forcément, parce qu'ils hurlent, et ils te foncent dessus, et en VR, putain, mais t'es dans la panique et tu tires dans tous les sens, c'est excellent. Et juste pour résumer un petit peu, Serious Sam, même le 2, c'est un peu ce que Duke Nukem n'arrivait plus à faire à l'époque. Ils n'arrêtaient pas de rebooter le jeu, ils n'arrivaient pas à le faire, et Serious Sam avait réussi ce que Duke avait complètement abandonné. Et c'est vrai que c'est hyper fun et hyper cool à jouer.
Bon allez, il va falloir clôturer l'émission, et je dois reconnaître que je suis battu. C'est Creepers qui nous a dégoté le morceau le plus badass possible.
D'écouter, il fallait faire quelque chose de badass, Ron, hein. Il fallait appuyer le côté badass. On vient d'écouter la musique de Mick Gordon pour Doom.
C'est un score de copain, Mike Gordon.
Ah ouais, j'adore Mike Gordon, c'est vraiment la révélation là en termes de compositeur en ce moment. Mike Gordon, moi je le mets vraiment au-dessus parce que bah déjà moi je suis un peu un bourrin, j'aime bien la gratte, et toutes les musiques récentes qu'il a fait, qui leur instant on a déjà diffusé, c'est de la balle, et là mais Doom, c'est de la boulette.
Non,
et...
c'est complètement dingue. Alors en plus, contrairement à toi, moi je suis pas un gros amateur de gratte, hein, ou de gros rock. Et ben quand c'est Mike Gordon, si.
Ah, oh, puis là, il a sorti la guitare 8 cordes, quoi. Le mec, il s'est dit, voilà, il faut que je reprenne le thème de Doom. Alors est-ce que je le fais simple? Non, il fait Doom, le gars.
J'ai des espèces de petits rythmes qui viennent s'appuyer, là, qui renforcent tout.
Mais là, je veux dire, là, on se coule la tête comme des dingos, mais quand t'es en plein jeu et qu'ils te balancent ce score démoniaque pendant que t'es en train de viser dans tous les sens, mais c'est juste parfait, c'est l'alchimie parfaite. Le jeu, d'ailleurs, a gagné un prix au Video Game Award, ou je sais plus comment ça s'appelle, là, les awards du jeu vidéo, là, tous les ans. Il a gagné, voilà, la bande originale, et tu te dis, une bande originale bourrine comme ça, moi je pensais même pas que ça allait sortir ou gagner n'importe quoi, mais si, les gens ont compris, parce que non seulement le score est bon, si on aime un peu la musique, etc., mais en plus, il est parfaitement adapté au jeu pour lequel il a été composé, donc c'est un ensemble vraiment ultra cohérent et parfait, et voilà, Doom, la musique de Doom, Mike Gordon, je vous aime, voilà, et il fallait qu'on termine là-dessus, cette musique elle est folle, quand elle commence elle est folle, t'es complètement pris dans un tourbillon de violence et de nervosité, donc du coup t'as envie de tirer sur tout ce qui bouge, et ça détermine parfaitement ce qu'est Doom, et Mike Gordon, bravo pour cette bande originale, tu as été cité plein de fois dans la beatbox, j'espère que tu es fier de toi, on t'aime.
Masterpiece.
Et voilà, c'était le dernier morceau de ces Beatsbox, hein, donc je vous avais promis du badass, le badass.
Ouais.
Et là, on en a balancé des kilos, des tétra-kilos. Donc j'espère que vous avez aimé comme d'habitude. On a juste un petit absent, hein, finalement, c'est Duke, hein, qui était même pas là, quoi.
Ouais, mais il avait qu'à pas faire Duke Nukem Forever.
Il avait qu'à pas faire Duke Nukem Forever. Rassurez-vous, on a quand même dégoté un petit morceau à vous mettre en générique de fin une fois qu'on vous aura fait des bisous. Voilà, c'était la Beatsbox spéciale badass.
Alors maintenant, détendez-vous, relax, on détend la pression, vous allez pouvoir retourner à vos activités traditionnelles et... Il ne faut pas oublier quand même, si vous avez aimé cette émission, partagez-la. Il y a des gens qui veulent du badass dans leur transport en commun. Ils veulent profiter de gros gros riffs bien bourrins pour se soulager un petit coup avant d'aller bosser. Donc partagez, likez, dites-nous que vous nous aimez, parce que si vous nous aimez pas, on s'en fout. Tout simplement, on s'en fout. Et on se donne rendez-vous au mois prochain pour une nouvelle émission, peut-être un petit peu plus calme ou pas. Bisous.
Salut.